Zedira Prospérité, épisode 43, raté. Parce que l'épisode suivant, il va être en deux temps, et je voulais pas qu'il y ait deux mois d'écart entre les deux. Donc aujourd'hui, ce sera autre chose. Alors je vous préviens tout de suite, je vais être un peu plus longué que d'habitude. Si d'habitude vous regardez, vous dites « Michael, il est 10 à 50, il a fini, on est tranquille. » Bon, raté pour cette fois-ci, je vais être un tout petit peu plus long. En fait, je veux m'attarder sur deux textes. Alors m'attarder, non, on va voir deux textes. Je ne vais pas m'attarder sur le premier. Je vais vous l'expliquer un peu quand même. Hein. Alors, le premier, c'est un mauvais exemple. D'accord ? C'est un exemple qu'il ne faut pas suivre. Normalement, ce que vous allez entendre, vous ne devez pas vous dire oh, « mince, c'est vrai, il faut que j'arrête de faire ça voilà. ». J'espère que personne n'est comme ça dans l'Assemblée. En tout cas, personne n'est comme ça à 100%. Là, on est vraiment sur un cran assez extrême. Mais ça permet de réfléchir quand même. Est-ce qu'on n'est pas un petit cran comme ça ? À quel point, voilà, à quel point on peut dire non, c'est absolument pas moi. Et surtout, ça permet de faire un contraste avec le texte d'après, la personne d'après. Vous allez voir que c'est deux personnes complètement différentes, même si moi, ça a connecté dans ma tête un soir en lisant. Donc le premier texte, c'est celui-là. Alors c'est la fille d'Hérodias, vous savez, qu'on peut lire, dont l'histoire, on peut la lire en Marc 6. Donc l'histoire, elle est racontée dans trois évangiles. Hein. On la voit dans Matthieu 14, avec un tout petit peu moins de détails qu'ici. Et une petite différence sur le comportement d'Hérode. Bon voilà, ça ne change pas grand-chose à ce que je vais dire ici. Donc Matthieu 14 et en Luc 3, ça tient en deux versets. Voilà. Donc moi j'ai gardé la version longue ici, parce que c'est là où il y a tous les détails et je pense qu'on comprend bien l'histoire. Donc Matthieu 14, non, je dis qu'on gardait Marc. Marc 6, à partir du verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé, et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps, et le mirent dans un sépulcre. Et pas joyeuse, hein, cette histoire. Alors, cette histoire, elle se passe chez les Hérodes. Alors, les Hérodes, c'est un sketch. C'est un sketch. Voilà. Pour certains, à la télé, il y a passé Dallas, Côte Ouest. Les Hérodes, c'est le même genre. C'est vraiment ça. Hein. Je vais vous donner un petit aperçu là, juste pour vous compreniez ce que c'est comme genre de famille. Vous allez voir, c'est sympa. Donc, les Hérodes, en fait, on dit Hérode là, hein, mais dans la Bible, on en voit plusieurs. D'accord ? Ils s'appellent tous Hérodes hein, parce que c'est un peu comme les Césars, c'est un titre, en fait. C'est un nom de famille, et donc voilà, on les prend de génération en génération. Donc, le premier de la série, alors j'ai essayé de vous faire un truc, je ne sais pas si ça se lira bien de loin. Voilà. Donc, le premier de la série, c'est Hérode le Grand. Hérode le Grand, dont il est question en Matthieu 2, et c'est lui qui fait tuer les petits dans Jérusalem parce qu'il essaye de faire tuer Jésus. D'accord ? Donc lui, il a eu 10 femmes et 14 enfants, dont 8 ou 9 fils. Alors on n'est pas sûr de tout, d'accord ? Alors, on peut vite s'enliser dans l'histoire parce que j'avais un, j'allais dire un organigramme, c'est la fonction publique ça, un arbre généalogique, voilà. C'est pas tout à fait pareil. Un arbre généalogique, c'est une catastrophe la famille d'Hérode parce que vous allez voir, ils se marient entre eux en plus. Donc voilà, c'est assez imbuvable comme schéma. Donc là, c'est une version simplifiée, hein, mais enfin, sinon on comprend rien. Donc dans la famille Hérode le Grand, il a avec une première femme, Alexandre. Il le fait tuer. Voilà, donc c'est réglé. Aristobule IV, alors je ne sais même pas si c'est le premier, parce qu'il y a des fils où on n'est pas sûr. Hein. Aristobule IV, il le fait tuer. D'accord. Il y en a, il les fait étrangler, voilà, c'est comme ça. Pourquoi ? Bah parce qu'ils ont possiblement fait un complot contre lui, et donc ils s'en débarrassent. Ça peut être ses fils, ça ne lui pose aucun problème. D'accord. C'est un empereur romain, l'empereur romain Auguste qui aurait dit même d'Hérode qu'il valait mieux être son porc, son cochon, que son fils. C'était moins risqué. Ça vous dit un peu le personnage quand même. Hein. Quand on lit ça dans la Bible, on n'a pas tout cet arrière-plan-là. Hein. Alors pourquoi je vous mentionne quand même Aristobule ? C'est parce que derrière, il a lui-même des enfants, dont Agrippa Ier. Lui, il est connu dans la Bible hein, parce qu'il fait mettre en prison Jacques et il fait tuer Pierre, l'inverse. Il fait tuer Jacques et mettre en prison Pierre. D'accord. Et Hérodias, dont il est question ici. Donc vous voyez que c'est une petite fille d'Hérode le Grand. Hérode Agrippa Ier, il a un fils qu'il appelle Hérode Agrippa II. Voilà, j'aurais pu appeler Raphaël Michael II. Ça fait un peu prétentieux. Mais voilà, dans la famille, ils s'appellent tous Hérode. Donc Hérode Agrippa II. Et lui, c'est celui qu'on voit au procès de Paul à Césarée. D'accord. C'est lui qui juge Paul. Et sa sœur est là, elle s'appelle Bérénice. D'accord. Donc voilà, on les retrouve aussi. Tous ceux qui ont une petite étiquette jaune, même si vous ne voyez pas de loin, vous voyez un petit truc jaune, c'est parce qu'on les voit dans la Bible, en fait. Donc vous voyez que cette famille-là, on la rencontre pas mal dans la Bible. Donc voilà. Donc on a retrouvé en tout cas Hérodias, qui est la femme dont il est question ici, et qu'on appelle Hérodiade dans certaines versions, mais c'est la même personne. Donc je vous ai dit, Hérode le Grand, il a plein d'enfants. J'en rajoute quatre ici, il y en a d'autres, hein, mais voilà, ces quatre-là, Hérode Philippe Ier, Hérode Archélaüs, Hérode Antipas et Philippe II, le tétrarque. Alors la plupart, ils sont mentionnés quand on parle des tétrarques dans la Bible au moment de la naissance de Jésus. D'accord. Hérode Philippe Ier, il se marie avec Hérodias. Donc déjà, vous voyez, elle se marie avec son oncle. C'est un peu bizarre. Hein. Mais voilà, c'était pas les mêmes mères, donc c'est pas tout à fait la même famille. Bon, c'est un peu spécial. Mais donc, ils se marient ensemble et ils ont comme fille Salomé. Alors j'ai mis Salomé 3 parce qu'en fait, il y en a deux avant. Hein. C'est logique. Mais voilà, ils s'appellent tous Salomé, ils s'appellent tous Mariam, ils s'appellent tous Hérode. Donc c'est assez compliqué pour s'y retrouver. Dans la Bible, on lit Hérode, et puis en fait, il y en a quatre différents, au moins. Et donc, Hérode Philippe Ier, il est destitué, pareil, on le soupçonne de comploter. Alors lui, il réchappe quand même, hein, et il va vivre une vie pépère, tranquille, sans qu'on l'embête. C'est un des rares. Hein. Après, ils vont tous mourir, être exilés. C'est un peu, voilà, Dallas, Côte-Ouest, c'est ça. Voilà, un peu plus violent quand même. Voilà. Et Hérodias, son mari étant destitué, bon, le quitte, et elle se marie à un autre de ses oncles, qui est Hérode Antipas, qu'on voit là-bas ici. Voilà. Et donc c'est ce cadre-là, ici, on retrouve Hérodias, Hérode Philippe Ier, ben, alors lui qui a été abandonné par son épouse, mais qui est mentionné dans le texte, Hérode Antipas, qui s'est remarié avec Hérodias, et Salomé. Donc les quatre en rouge, là, c'est ceux de notre histoire, en fait. Voilà. Ça fait une famille assez compliquée, hein. Archélaüs, c'est pareil, c'est un violent de service. C'est celui qui est là quand Joseph et Marie ils reviennent d'Égypte. Et ils disent, comme lui, il était là, qui était cruel, ils ont préféré aller ailleurs plutôt que dans leur pays d'origine. Vous voyez, lui aussi, c'est assez chouette. Hein. Et juste pour finir le boxon, hein, Philippe II, il se remarie avec Salomé après. Donc vous voyez, c'est pareil, elle se remarie avec un de ses oncles. Vous voyez le bazar que c'est dans la famille. En tout cas, notre cadre à nous, c'est les quatre rouges, ici. Hérode Philippe Ier, donc, qui est abandonné par son épouse, et Hérodias, qui se remarie avec Antipas. Ça va, vous me suivez ? J'ai essayé de mettre par morceaux, hein. Si on affiche d'un coup, c'est l'horreur. Donc Salomé, finalement, quand elle se retrouve à danser devant le roi, c'est Hérode Antipas, ici. C'est qui pour elle ? Bah, c'est son oncle, en fait, et c'est son beau-père, du coup. Donc c'est un peu bizarre, hein. Il y a un truc un petit peu malsain dans tout ça. Bon, voilà. Et donc c'est ce remariage, qui est Hérodias, qui était marié avec Hérode Philippe, et qui se remarie après quand il passe, c'est ça que Jean, il discute ici, et qui dit, bah non, ça ne t'est pas permis. et qui, voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve en prison, en fait. Vous voyez, c'est ça le contexte de notre histoire. Alors, on ne sait pas trop. Voilà. Il y a plein d'idées sur cette histoire, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Hérodias veut se débarrasser de Jean. Il nuit parce qu'il fait que ça répéter, bah, ce mariage-là, il n'honore pas Dieu, il ne devrait pas être. Et donc, elle cherche à s'en débarrasser. Maintenant, on pourrait dire que c'est juste une opportunité. Voilà, il y a l'anniversaire d'Hérode. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de fêtes d'anniversaire dans la Bible. Il y a celle-là. Bon, voilà, ce n'est pas très glorieux. Mais voilà, il y a une opportunité au moment de son anniversaire. Et il y a des arguments, plus ou moins dans le texte, pour nous dire que c'est juste une opportunité qu'elle a saisie. Alors, les arguments en faveur de ça, c'est que Salomé, elle ne semble pas savoir quoi demander, en fait. Et elle va voir sa maman une fois que Hérode lui a fait la promesse. Voilà, donc on a l'impression que ce n'était pas vraiment prémédité, ça. Elle découvre, elle est surprise, et donc voilà. Elle est surprise de la promesse d'Hérode, et elle est obligée d'aller voir sa maman. Si tout était prévu d'avance, bah, elle aurait une réponse, et elle lui dirait du tac au tac, voilà, c'est comme ça. Socialement, elle ne devait pas danser devant le roi, en fait. C'est un travail de courtisane, d'esclave, de quelqu'un d'autre, mais pas d'une fille de roi. Je vous rappelle, ah, j'ai viré mon organigramme, là, mon arbre généalogique. Elle est petite fille d'Hérode le Grand. Donc elle a du sang royal dans les veines, elle ne doit pas s'abaisser à danser comme ça, à un banquet, probablement avec des gens qui sont ivres, qui ont trop bu. Elle ne devrait pas faire ça, en fait. Et donc ça, on se dit, bah voilà, Hérodias, elle ne devrait pas faire ça avec sa fille, donc ça n'a pas l'air d'être prémédité. C'est un argument un peu léger, hein. On va voir après pourquoi. Donc ça, c'est une version de voir les choses avec laquelle voilà, je ne suis pas trop d'accord. Voilà. L'autre manière de voir les choses, c'est de se dire tout ça, c'est prémédité par Hérodias. Alors les arguments en faveur de ça, le timing qui est parfait. Qu'est-ce qu'il nous dit le texte ? Il nous dit « Cependant, un jour propice arriva ». On a l'impression qu'elle attendait, elle attendait l'occasion, et là, c'est « Ah, là, c'est bon, je vais la voir ». Deux, elle connaît son mari. Elle le connaît et elle sait que devant tout le monde, probablement avec un peu d'alcool pour aider, il ne pourra pas dire non s'il fait une promesse. Et donc, elle se dit « il y a un coup à jouer, là. Quand il est devant tout le monde, il ne va pas se comporter normalement. » Et avec l'alcool, ça va aider aussi. Et historiquement, Hérodias, elle est décrite comme une femme extrêmement ambitieuse et manipulatrice. Et donc du coup, cet argument de dire « oui, mais sa fille, elle ne devrait pas danser, il ne faudrait pas qu'elle fasse ça parce qu'elle la rabaisse », si ça se trouve, ça ne la gêne pas en fait. Et alors pourquoi on dit historiquement ? Parce que ces gens-là, ils sont connus en fait, hein. Ils sont dans l'histoire humaine, hein. Ce n'est pas des gens inventés par la Bible. Et il y a un historien, qui est en particulier Flavius Joseph, qui a écrit tout un tas de trucs sur l'histoire des Juifs, et il parle de cette famille d'Hérode. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a le nom de la fille. Sinon, dans la Bible, on sait juste qu'il y a une fille qui danse. Mais lui, il nous dit que c'est Salomé. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Alors, il y a une hypothèse que j'aime bien, qui tient compte de ces deux choses-là, en fait. Tout ce qu'on a dit, là, les arguments des deux côtés, on peut les regrouper et avoir une hypothèse que Hérodias, elle a tout prémédité, d'accord ? Mais sa fille, elle ne le savait pas. Elle n'était pas dans le complot au départ. C'est pour ça qu'elle est surprise, en fait, de la promesse. Mais rien ne nous en... Alors, le texte biblique ne permet pas de le savoir, d'accord ? On n'a rien d'autre que ça. Donc, c'est une hypothèse. Mais voilà, moi, je le vois bien comme ça, avec Hérodias qui a monté tout le complot. Limite, elle va voir son mari en disant... sa fille, en disant, bah, ce serait bien que tu fasses un truc pour papa, pour ton beau papa, du coup. Tu lui fasses un truc sympa, ça lui ferait plaisir pour son anniv. Elle va voir le mari, tu sais, ta fille va faire un truc chouette pour toi, fais-lui un cadeau chouette quand même, hein. Fais un effort pour une fois. Voilà, et comme ça, la fille danse, promesse, oh surprise, la fille, bah, elle ne sait pas trop, hein. Et donc elle va voir sa maman et elle demande. Et ça, ça remet tout en une seule traite en fait, il n'y a plus d'incohérence là-dedans. Ça colle bien à qui était Hérodias en fait, puisqu'on l'a dit manipulatrice. Et il y a un élément là-dedans qu'il faut ajouter, c'est que Salomé, dans notre imaginaire, on se dit bah, c'est une jeune fille, quoi. Elle danse et elle séduit Hérode. Mais le terme qui est employé derrière, c'est chorasion, avec un K, et ça désigne une fillette ou une très jeune adolescente, en fait. C'est le même mot qui sera utilisé pour qualifier la fille de Jaïrus. Vous voyez, la fille de Jaïrus, on comprend bien, on se dit c'est une jeune fille, voilà. Là, c'est pareil, c'est une jeune adolescente au mieux, quoi. Donc elle est probablement peut-être même encore plus jeune que ça. dans autour de la dizaine d'années, quoi, si vous voulez. Après, je n'ai pas un chiffre précis à vous donner, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est une jeune fille. Donc voilà, elle a l'air d'être manipulée par quelqu'un, quoi. Elle ne fait pas tout ça comme ça, et elle ne demande pas la tête de Jean-Baptiste parce que ça lui fait plaisir à 10 ans. Voilà. Alors tout ça, c'est juste une hypothèse, hein, mais voilà, ça se passe comme ça en tout cas. C'est-à-dire qu'elle danse, le roi, il est un peu éméché, il fait une promesse là jusqu'à la moitié de mon royaume, et là, la maman, elle se frotte les mains, nickel, je peux demander la tête de Jean-Baptiste. Le roi n'ose pas dire non, et l'affaire de Jean-Baptiste, elle est réglée sur une histoire comme ça. Alors, voilà une manière de demander les choses à Dieu ou aux autres, par la séduction, par la manipulation, par la ruse. C'est tout ça qu'on a dans cette histoire-là, en fait, hein. Et quand on voit cette famille, comment ils étaient, voilà, il n'y a pas de souci à imaginer tout ça, en fait, hein. C'est pour ça que je vous l'ai décrite aussi comme ça. Alors, bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit au début aussi, hein, normalement, il n'y a personne qui est comme ça, comme Hérodias dans l'assemblée. S'il y a quelqu'un qui lève le bras, je fuis, hein. C'est pas rassurant. Mais on n'est pas comme ça à 100%. Mais est-ce qu'on ne peut pas, dans notre manière de faire les choses, je pense aussi au travail, quand on a des choses à demander. Il y a des gens, on sait comment le demander, comment orienter nos demandes, dans quel contexte le faire. Et on n'est pas loin de la manipulation, en fait. La frontière entre la sagesse ou la diplomatie et la manipulation, elle est limite, en fait, elle est tangente, des fois. On peut dire, je vais demander comme ça parce que je sais que, et il n'y a pas forcément de méchanceté dans le cœur, mais attention à ne pas manipuler les gens. Alors, voilà, normalement, vous n'êtes pas concerné, j'espère, à 0% de tout ça, hein, si on met un petit curseur, là. Mais ça me permet d'introduire le deuxième exemple, qui lui est bien meilleur. Forcément, on ne va pas donner que des mauvais exemples, hein, sinon ça va être triste de y repartir en disant je ne sais pas ce que je dois faire. Donc pourquoi je vous ai parlé de cette histoire? Parce qu'un soir, dans ma lecture quotidienne, je lisais un livre du passage d'Esther. Je vais me dire quel rapport. Enfin, mais c'est en le lisant que j'ai pensé à ce passage avec Hérodias et tout ça. Donc c'est Esther chapitre 5. On reviendra sur le contexte après, hein, je vais en parler aussi. Donc le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther devant la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu ? » Et là, ce qu'il lui dit, « Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Et en fait, c'est ça qui a fait titre dans ma tête. Je me suis dit, « C'est marrant, je l'ai lu ailleurs, ce truc-là. » Et j'ai fait la correspondance entre ces deux histoires. Et donc, Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Voilà, c'est vraiment ce moment de, même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Et je me dis, c'est marrant, en y réfléchissant, il y a tout un tas de parallèles entre ces deux passages, en fait, ces deux histoires. Donc les deux rois sont des rois païens. Les deux femmes ont une demande à faire au roi, et les deux vont demander la mort de quelqu'un. Toutes les deux attendent le moment propice pour faire leur demande. Dans les deux cas, ça se passe avec un banquet probablement bien arrosé. Et dans les deux cas, il y a un parent qui pousse derrière pour la demande. Pour Salomé, c'est sa maman, Hérodias. Et pour Esther, en fait, c'est son oncle Mardochée qui l'a envoyé. Vous voyez ? Et tout ça, mais c'est marrant, ces deux histoires. Et pourtant, c'est tellement différent comment ça se passe. Mais le contexte, il a l'air pareil. Alors, dans les ressemblances aussi que j'ai trouvées, vous en trouverez peut-être après si vous réfléchissez au texte, mais voilà, j'ai aussi vu Salomé, elle a dû travailler son numéro de danse, préparer quelque chose. Et Esther, à sa manière, elle a préparé sa demande. Elle a jeûné, elle a prié avant le jour J. Vous voyez que les préparations ne sont pas les mêmes. Hein. À toutes les deux, le roi promet jusqu'à la moitié de son royaume. Et toutes les deux vont obtenir ce qu'elles voulaient. Il y a tellement de points communs, mais en vrai, sur le cœur de la demande, c'est complètement différent. Donc les différences, c'est qu'Esther, elle demande la justice pour son peuple. Salomé, elle demande la justice à cause du peuple de Dieu, à cause de Jean. Et parce que Jean y proclame la loi de Dieu, elle demande sa tête à lui, en fait. Esther, elle veut juste le salut de son peuple. Esther, juste une petite parenthèse, hein, mais en hébreu, c'est Hadassa. Ça, c'est un autre texte qui nous le dit, c'est en Esther 2. Je l'avais peut-être déjà mis là. Ouais, pardon. Esther 2, bon, je vous... juste les premiers versets, elle dit, ça dit « Il élevait, donc Mardoché élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. » Et Esther, ça veut dire le myrte. Le myrte, c'est le symbole de la justice dans la Bible. Donc Esther, elle s'appelait Hadassa parce qu'elle était juste. On la compare au myrte, en fait, parce qu'elle est juste, elle demande la justice. Donc Esther, elle ne demande pas pour elle-même, alors que Salomé, finalement, elle demande pour elle-même, alors pour elle-même si on fait un groupe avec sa maman. Esther, elle risque sa vie pour le salut des autres. Si le roi il est mal luné ce jour-là, elle peut mourir. Et c'est ce qu'elle dit à Mardoché. Elle lui dit, mais tu sais, j'ai pas été appelée devant le roi. Si je me présente qu'on m'a rien demandé, je suis morte. Salomé, elle risque pas grand-chose. Bon, après, avec des gens bourrés, on sait pas, hein, mais voilà. Sur le principe, elle risque pas grand-chose. Salomé, elle obtient les choses par la séduction, ou en tout cas Hérodias l'obtient par la séduction, par la manipulation, par la ruse. Esther, elle est belle, on nous le dit dans la Bible, mais elle n'obtient pas ça parce qu'elle est belle. Elle obtient ça parce qu'elle demande par faveur et pas par séduction. Aman, je suis encore dedans. Ouais, ça va. Aman est invité au banquet et il a tout loisir de se défendre. Et d'ailleurs, c'est en se défendant de manière trop proche d'Esther que le roi va croire qu'il veut la violer et qu'il va le faire tuer sur le champ. Jean-Baptiste, il n'y a pas eu ce loisir-là. Il ne s'est pas défendu. Lui, il était dans sa prison. On est venu, on lui a coupé la tête. Le résultat de tout ça, c'est la honte pour la famille d'Hérodias, pour la famille d'Hérode, d'une manière générale, d'avoir été les meurtriers du prophète Jean-Baptiste. Bibliquement, c'est la honte. Après, dans l'histoire du monde, ça leur est passé au-dessus. Des gens, ils en ont fait tuer des kilos, voire leurs enfants, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça ne les a pas traumatisés, probablement. Mais bibliquement, c'est la honte d'avoir fait ça. Pour Esther, elle a obtenu le salut de son peuple et la gloire. Bibliquement, c'est la gloire qu'elle a obtenue. Pour elle et pour Mardoché. Donc il y a tout un tas de points communs. Et vous voyez que dans le comment la demande est faite, le pourquoi, la demande elle-même, finalement, c'est complètement différent. C'est l'opposé dans ces deux histoires. Donc il y a un truc bizarre entre ces deux histoires. Mais voilà. Alors, je voulais revenir sur la manière dont Esther fait sa demande au roi. Elle l'invite à un banquet. Alors on pourrait dire, bah ouais, normal, elle l'invite, il va bien boire, il sera un peu éméché. Et pareil, on fait la demande au moment où il n'est pas en état de dire non. Et en fait, elle ne lui dit pas ce soir-là. Et je ne sais pas si vous aussi vous êtes demandé, mais mince, pourquoi elle lui dit, reviens demain. Déjà, dire ça au roi, c'est, je sais pas, ça pourrait être mal pris. Il pourrait dire, écoute, tu vas me faire tourner bourrique, dis tout de suite, et puis voilà, hein, accouche. Quoi. Mais il ne lui dit pas, elle a faveur à ses yeux, je réinsiste. Hein. Et elle le réinvite le lendemain. Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça au lieu de lui demander tout de suite? Alors la Bible ne nous le dit pas, hein, mais... Alors on peut s'imaginer que peut-être qu'elle veut faire monter la pression et voilà, mais bon, c'est pas super probant comme argument. Hein. Et je crois qu'il y a une explication qui est juste dans le texte en fait. C'est pour ça que c'est probablement la meilleure explication. Juste avant ça, je vais vous donner une petite anecdote. Alors, ça fera juste marrer, mais voilà, ça vous donne un petit peu le pourquoi faut choisir la bonne date. Il y en a une qui sourit là-bas. En avril 2003. Je voulais déclarer ma femme, ma flamme, à celle qui allait être ma femme. Faut pas se tromper dans l'autre sens. Je voulais déclarer ma flamme avec un A aussi, avec un E. J'avais été chez ma mère à Armentières à cette époque-là. Maï, elle était à Roquetoire, dans le Pas-de-Calais. Et donc, mince, faut que je trouve un moment où je peux lui dire ce que j'éprouve, quoi. Et justement, Maï devait aller en formation à Lille. Alors, je crois que c'était un mardi, mais je me souviens plus bien, en fait. Donc, peu importe. Elle devait venir à Lille et donc j'arrive à lui dire bah, écoute, quand tu reviens de Lille, passe à la maison, comme ça tu passes faire coucou et puis on discute un petit peu. Voilà quoi. On a dû se douter de quelque chose, hein, mais bon, voilà, ça permet de faire une amorce, hein, on ne sait pas trop comment faire. Manque de bol, ce jour-là, ça ne s'est pas fait. Alors, je sais pareil plus pourquoi, hein, j'oublie un peu tous ces trucs-là, mais style, la formation était trop longue, il y a eu des bouchons, bon voilà, pas pu passer à la maison. Ah, ah Seigneur, qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà du mal à faire coller un rendez-vous et que voilà, et c'est pas facile à dire. Et puis toi, tu me fais tout planter, zut. Et Maï, après, elle me dit, bah écoute, la semaine prochaine, je dois retourner en formation. Oh, merci Seigneur. Bah écoute, essaye de venir à la maison, hein, voilà. Et cette fois-là, effectivement, elle est passée à la maison, j'ai pu lui dire ce que j'avais à dire. Pareil, ma mère est rentrée dans la maison, si bon, on va dehors et on va s'expliquer. Et qu'on puisse avoir la paix. Voilà. C'est là où on s'est dit, dès le début, cette affaire-là, soit elle va au mariage, soit elle s'arrête, rapidement. Voilà. C'est pour la vie. C'est important, hein, de mettre les choses au point, dès le début. C'est pas de la rigolade, on s'amuse pas avec le cœur des gens. Ça, c'était le 8 avril 2003. Alors, ceux qui me connaissaient un peu savaient que j'avais un fond d'humour, hein, et que du coup, la semaine d'avant, c'était quelle date ? 1er avril. Et en fait, Maï, pendant longtemps, elle m'a dit, là, elle m'a rassuré ce matin, non, mais maintenant que je te connais, je ne le prendrai plus comme une blague. Mais à l'époque, si j'avais fait ça le 1er avril, elle se serait demandé, en fait, mais c'est quoi ? C'est une blague, qu'est-ce qu'il me fait encore ? Donc, merci Seigneur, parce qu'il a poussé les choses pour qu'on prenne la deuxième date, qui était beaucoup plus... 8 avril, ça fait beaucoup plus sérieux, voilà, que le 1er avril. Bonjour la crédibilité, hein, n'empêche. Donc merci Seigneur d'avoir conduit les choses. Hein. Et je pense qu'il a fait la même chose ici, en fait. Dans cette histoire-là, c'est pour ça que je vous le dis, c'est pas pour raconter ma vie, hein, mais dans cette histoire-là, le Seigneur, il a conduit les choses. Donc, Mardoché, il apprend qu'Aman a fait valider une loi, parce que le contexte de tout ça, c'est ça. C'est Aman, il n'en peut plus des Juifs, il voit Mardoché qui ne se prosterne pas devant lui tous les jours, comme moi je suis quelqu'un d'important, celui-là il ne se prosterne pas devant, je vais m'en occuper, d'ailleurs je vais m'en occuper de tout son peuple. Voilà. Et donc il veut éradiquer les Juifs, il fait signer un décret par le roi, il est content de ça, et donc Mardoché apprenant ça, il en fait part à Esther. D'accord. Et Esther lui répond ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle dit mais moi je ne peux pas aller voir le roi comme ça. Il ne m'a pas appelé, ça fait, je crois que dans le texte, ça le dit 30 jours, je ne peux pas m'approcher de lui. Si je m'approche alors qu'il n'a pas demandé, j'ai la peine de mort. Et Mardoché, qu'est-ce qu'il lui répond ? Il lui répond à Esther 4, versets 13 à 14. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? C'est rêche, hein, quand même, ce qu'il lui répond. Il dit, ne crois pas que parce que tu es chez le roi, tu vas y réchapper, toi. Si toi, tu te tais, le Seigneur, il va utiliser un autre moyen. Mais alors toi, tu auras tout perdu. Alors, il ne dit pas le Seigneur, hein, mais on comprend derrière, en fait, dans le texte de Mardoché, que c'est Dieu qui dirige tous ces événements-là. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? C'est pareil, il n'y a pas Dieu dans la phrase, il n'y a pas le mot derrière. Mais on comprend bien, est-ce que Dieu ne t'aurait pas mis à cet endroit-là, précisément pour ce moment-là ? C'est ça qu'il lui dit en fait. Et dans la réponse de Mardoché, on voit une confiance en Dieu. Si ça ne passe pas par toi, le Seigneur il trouvera un autre moyen et il va nous délivrer. Donc il y a cette confiance que Dieu il va agir et qu'il est au pilotage de tout ce qui est en train de se passer en fait. Et la suite nous montre qu'il avait raison, en fait. Donc la réponse d'Esther, elle nous montre qu'elle aussi, elle s'attend à Dieu, en fait, qu'elle cherche sa volonté. Elle lui répond, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Ça, c'est la clé de la réussite probablement à ce moment-là. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils l'ont fait pour certains de leur côté, elle avec ses servantes, lui avec les Juifs qui étaient dans la capitale, voilà, en commun. Et est-ce que nous, on passe ce temps, quand il y a une grande décision, quelque chose d'important, à jeûner ensemble, à prier ensemble, à chercher la face du Seigneur ? Les Seigneurs, là, c'est toi qui diriges, mais on a vraiment besoin que tu interviennes et qu'on voit ta main pour nous délivrer. On a besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, il y a le premier banquet. Esther, elle dit au roi, ben non, reviens demain. Pourquoi ? Moi, je crois que le Seigneur, il lui a montré Esther. Parce qu'elle a prié, parce qu'elle a jeûné, il lui a dit, pas ce soir. Attends, j'ai quelque chose à faire avant. Pas ce soir. Et alors, c'est pas dans la Bible, hein. Je vous dis ça, c'est juste, moi, je le sens comme ça. Mais quand on voit la suite, on se dit, mais elle était tellement inspirée d'attendre juste le lendemain et de ne pas faire sa demande-là. Parce que qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Vous le savez comme moi, hein, je vous lis l'histoire, mais vous le savez comme moi. En sortant du premier repas, Aman y croise Mardoché, qui se prosterne toujours pas devant lui. D'accord ? Alors il rentre chez lui, il dit « celui-là », il commence à m'agacer. Hein. Et j'ai peut-être pris un verset pour ça, pas du tout. Donc ça l'agace, il en parle chez lui. Chez lui, on dit « bah écoute, fais le pendre ». C'est une drôle de famille aussi, hein. C'est peut-être pas la famille d'Hérode, mais voilà, fais le pendre, débarrasse-toi de lui, hein. Écoute, si t'en peux plus. De toute façon, t'as tous les pouvoirs, c'est toi le numéro 2 du royaume, il n'y a qu'à. Hein. Donc voilà, il se décide. En parallèle, pendant la nuit, le roi, il n'arrive pas à dormir, comme par hasard. Il n'arrive pas à dormir. Et donc, quand c'est comme ça, il se fait lire, hein. Lui, il ne dort pas, donc les autres non plus ne doivent pas dormir, probablement, c'est le roi. Donc, il se fait lire les annales et il se dit, tiens, mais c'est marrant, dans ce qu'on a écrit là, il y a un certain juif Mardoché. Un jour, il y a des eunuques qui ont voulu mettre la main sur moi et il les a dénoncés, il m'a sauvé la vie quelque part. On a fait quelque chose pour lui ? Ben non, rien du tout, c'est pas normal ça. Et là, Aman qui vient vérifier que la potence elle est en train de se préparer, il est dans la cour, il leur a dit, ah tiens, Aman, il est de bons conseils, lui, je vais l'appeler, allez, viens, hop, il appelle. Dis donc... qu'est-ce qu'on ferait pour quelqu'un qu'on veut vraiment honorer ? Et ce passage-là, il est quand même croustillant, hein, parce que c'est là où voilà, on voit qu'il y a un moment précis où il fallait faire la demande, en fait. Aman, il se retrouve dans la cour du roi, lui, il pense au bon moment, mais en fait, au plus mauvais moment, il est venu chez le roi, en fait, avec l'idée, pas juste de vérifier la potence, hein. Il vient demander au roi la tête de Mardoché. Donc il y a un créneau, là, ça s'est joué à rien, en fait. Il y a quelqu'un qui a dû lire l'histoire du roi. Aman, il rentrait dans la cour. Si c'était 5 minutes après, il avait paumé le bouquin. Mardoché était mort. On rigole, hein, mais ça s'est joué à rien là-dedans, en fait. Et donc, Aman passe, le roi le fait appeler. Et vous savez, comme moi, hein, le roi dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme qu'on voudrait honorer ? Que le roi voudrait honorer ? Alors Aman, forcément, avec l'orgueil, bah, c'est forcément moi. Hein. Alors, il faudrait y mettre les habits du roi, le mettre sur le cheval du roi et le trimballer dans la ville. Et proclamer dans tout le monde, voilà ce qu'on veut faire à quelqu'un que le roi veut honorer. Et le roi, il dit, vas-y, fais ça pour Mardoché. Là, effondrement complet dans la tête d'Aman. Et du coup, à ce moment-là, il ne peut pas demander la tête de Mardoché. C'est impossible, c'est terminé ça. Donc Dieu a conduit tous les événements à ce moment-là, probablement à pas grand-chose près en termes de minutes, pour que ça s'organise bien. Et pour que Aman commence à tomber et que Mardoché commence à être élevé. Non, ça, c'était le fameux passage où je ne vous lis pas, ça fera gagner un petit peu de temps. Donc Aman, il rentre, ben, il fait ça, hein, donc la honte pour lui, parce qu'il ne savait pas saquer Mardoché, et puis il doit le balader partout. Alors nous, on aurait honte un peu, en fait. Hein, même d'être à la place de Mardoché, être sur le cheval, devant tout le monde, qu'on crie comme ça, quand on a envie d'être discret, c'est raté. Hein. Mais bon, voilà, l'idée, c'était de l'honorer devant tout le monde. J'imagine que pour l'époque, c'était réussi. Aman, il rentre chez lui, dépité, il raconte ça à sa famille, et qu'est-ce qu'on lui répond ? Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Et là, on sent qu'il y a une puissance derrière le peuple juif, derrière le peuple de Dieu. Et c'est ça qu'ils disent ici. Ils ont reconnu qu'il y avait quelque chose dans ce peuple-là de différent. Donc Dieu a conduit les événements de manière tellement incroyable, aussi pour amener le roi à se souvenir de Mardoché. Et en fait, quand après Esther va faire sa demande, elle va parler de moi et mon peuple, le roi il va percuter, mais Mardoché, mais c'est quelqu'un de bien, pourquoi on voudrait le tuer ? Pourquoi on voudrait tuer son peuple ? Ça a servi à ça aussi, ce qui s'est passé la nuit. Hein. Ça a sauvé la peau de Mardoché, mais ça a aussi rappelé les choses dans la tête du roi, qui fait que quand Esther fait sa demande, ça percute complètement différemment en fait. Hein. Elle aurait pu faire sa demande, elle dit, mais De quoi tu me parles? Je comprends pas. Et là, par contre, on lui a rappelé ces choses. Et on va le voir dans la réponse du roi, en fait. Bah ou pas, je ne l'ai pas récupéré. On ne le verra pas. Faites-moi confiance, c'est dans la Bible. Hein, parce que le roi, il dit... Il parle du juif Mardoché, en fait. Il percute bien. On l'a peut-être lu juste avant. Mais voilà, il associe bien le peuple juif et Mardoché, en fait. Et ça, c'était vachement important pour le banquet, le deuxième banquet où Esther avait sa demande à faire. Alors, une petite remarque sur ce texte, hein, c'est juste pour la culture. C'est l'un des derniers, si ce n'est le dernier, à être admis dans le canon de l'Ancien Testament chez les juifs. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Déjà, le fait qu'on ne trouve pas Dieu directement. Alors, c'est le principal argument, on ne mentionne pas Dieu. Martin Luther, il était assez remonté contre ce texte. Il dit dans un de ses textes, « Je hais ce livre, le deuxième livre de Maccabée, et celui d'Esther. Je le hais. » Il dit, « J'aimerais mieux qu'il n'existe à ce point. » Ouais, c'est ça. Il ressemble beaucoup au livre des païens. Pourquoi ? Donc, parce qu'il n'y a pas de mention de Dieu, parce qu'on se retrouve avec... Une femme qui est l'épouse d'un roi païen, avec des beuveries, avec le luxe, la luxure qu'il y avait à l'époque, avec l'alcool qu'il y avait à l'époque, hein. Enfin, tout ça, ça fait partie de ça. Finalement, c'est un cadre très très profane, hein. Ça ressemble pas à grand-chose de chrétien, tout ça. Et pourtant, ça fait partie du canon. Pourquoi ? Parce que entre les lignes, on voit la main de Dieu qui dirige tout, tous les événements. Et là, ce qu'on a lu là, c'est vraiment l'exemple grandiose de Dieu qui dirige tout, du début à la fin, et qui amène au salut après. Donc c'est vrai que ça parle du salut du peuple, et que Dieu a conduit tous les événements pour en arriver au salut. Donc voilà, voilà pourquoi probablement il a été quand même réadmis, il a été admis dans le canon tout court par les juifs, mais vraiment à la fin. Je veux souligner, on va y arriver, je veux souligner un des derniers points, presque, pour faire le lien entre les deux histoires. Hérodias, elle manipule les gens autour d'elle pour avoir ce qu'elle veut. Elle agit par ruse, hein, je vous ai dit, par ruse, par séduction au travers de sa fille. Et finalement, elle agit comme le diable, en fait. Par ruse, par séduction. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, on nous dit toutefois, « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et l'égard de Christ. » C'est un des versets, il y en a plein, qui montrent que le serpent, il ruse, il trompe, il manipule. Et donc s'il y a un peu de ça en nous, même un tout tout petit peu, il faut à ce moment demander au Seigneur, non, je ne veux pas de ça. Parce que ça, ce n'est pas ta marque à toi, c'est celle du diable. L'idée est la même en fait. Le diable, il a fait au commencement avec Adam et Ève, il a tout organisé pour qu'il meure en fait. Plus tard, 2000 ans après, il a tout organisé pour que Jésus meure aussi. Et vous voyez, Hérodias, qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise tout pour qu'il y ait une mort à la fin. Et ça, c'est vraiment la marque du diable qu'on retrouve là-dedans. Le diable, il n'a pas changé, il est menteur, il est manipulateur, et il ne changera pas, en fait. Esther, elle trouve grâce aux yeux du roi. Et je veux insister sur ça, en fait. Le message de ce matin, c'est trouver grâce. Elle trouve grâce aux yeux du roi, et en fait, ce n'est pas que aux yeux du roi. Quand on reprend les passages dans Esther, on se rend compte qu'elle trouvait grâce auprès de tous ceux avec qui elle était. Je vous en donne juste quelques-uns, hein. C'est des petits versets à chaque fois. Esther 5, verset 2, donc ça c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Lorsque le roi vit la reine Esther debout devant la cour, on va y arriver, elle trouva grâce à ses yeux. C'est ça le plus important, elle trouva grâce à ses yeux. Esther 2, verset 9, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. C'est encore, ça c'est un des eunuques qui s'occupait d'elle au tout début de l'histoire. Hein. Et on dit déjà à cette époque, elle lui plut et elle trouva grâce devant lui. Et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Voilà. Un peu plus loin, Esther 2, verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Donc, elle trouve grâce. Et en fait, le fond de l'histoire, c'est qu'il y a eu le jeûne, il y a eu la prière et Dieu qui a tout piloté. Ça, c'est indéniable. Mais il y a aussi Esther qui, dans son comportement, est fondamentalement différente d'Hérodias et de ce qu'elle fait. Elle a trouvé grâce, en fait. Et elle a obtenu ce qu'elle demandait à cause de ça, en fait, à cause de son comportement. Alors, c'est difficile de dire, on pourrait faire une prédication là-dessus, hein, mais pourquoi on trouve grâce aux yeux des autres? Mais c'est un ensemble de comportements, de manières d'agir, de parler, qui fait qu'on trouve grâce aux yeux des autres. Et du coup, l'exemple pour nous, je vous ai dit, je suis d'Hérodias, il faut éviter de le suivre, c'est pas terrible. L'exemple d'Esther, en fait. Est-ce qu'on trouve grâce aux yeux des autres? Ça ne veut pas dire que tout le monde sera gentil avec nous, hein. Il y arrivera des problèmes aussi. Regardez Aman, ça ne va pas empêcher de vouloir les tuer. Mais voilà, il y avait quand même une grâce qui entourait Esther qui fait qu'elle était remarquée pour ça. Est-ce que nous, on est remarqués pour ça? Alors, on vient de dire, il n'y a pas que Esther. Mais il n'y a pas que Esther, effectivement. J'en ai d'autres, en fait, dont une histoire qui ressemble un peu sur le principe. Donc, j'ai glissé vers une autre histoire encore, mais je la fais rapidement. Il y a un autre personnage biblique qui s'appelle Joseph. Et finalement, il y a des similitudes aussi avec Joseph. Alors, je vous refais une petite liste, hein, mais tous les deux sont dans un pays étranger. Dans les deux histoires, il y a des serviteurs du roi qui ont agi contre le roi. Tous les deux, au départ, ils sont dans une position de soumission. Ils sont esclaves, ils sont en prison, ils ne sont pas grand-chose, ils sont exilés comme Esther. Mais tous les deux vont être placés par le Seigneur en position d'autorité. Et Joseph et Mardochée sont tous les deux revêtus de vêtements royaux et ils deviennent tous les deux la plus grande autorité après le roi. Ils changent de statut social, en fait, au travers de ces histoires. Mais surtout, Joseph, il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce auprès de Potiphar, officier de Pharaon, nous dit en Genèse 39,4, « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison » et lui confia tout ce qu'il possédait. Il a trouvé grâce auprès du gardien de la prison. L'Éternel, en 39-21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur, hein, c'est la même histoire, aux yeux du chef de la prison. Et auprès du Pharaon. Le verset ne dit pas ce mot-là, mais on comprend bien qu'il a trouvé grâce aux yeux de Pharaon. Dans le récit de Joseph, c'est pareil, Dieu n'est pas mentionné tant que ça en fait. Hein. Mais on a la conclusion de Joseph à la toute fin. Quand le père est mort et que les frères ils vont le voir, ils sont toujours craintifs de dire « mince, peut-être que maintenant que papa n'est plus là, on va prendre cher pour ce qu'on a fait à Joseph ». Et qu'est-ce qu'il leur dit Joseph en Genèse 50? Il leur dit « soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux ». Comme Esther, il a été mis là, à ce moment-là, à cet endroit-là, pour une bonne raison. Et il a fait le travail pour Dieu. Une autre histoire. Il y a une autre personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui a obtenu un grand salut pour son peuple. Moïse. Ah aussi, on va rajouter une histoire. Tant pis, on finira à une heure. Jésus, il a trouvé grâce. Alors lui, c'est un peu différent, il était la grâce, donc il n'y a pas besoin de la trouver. Hein. Mais il a trouvé grâce, mais il a trouvé grâce aux yeux des hommes quand même, c'est ce qu'on nous dit de lui. Donc c'est la même chose qui se répète en fait. Hein. Il a trouvé grâce, il était la grâce, et il est venu nous la porter. Lui aussi, il avait une demande à faire au roi. Et sa demande, ce n'était pas la tête, la mort de quelqu'un, c'était le salut. Ouf. En Luc 2, verset 40, « L'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Et un peu plus loin, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Luc 4, 22, « Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et bien sûr, Jean chapitre 1, on ne peut pas passer à côté, hein. « La parole a été faite chair, elle a été parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà l'exemple à suivre. On a eu Esther, Joseph, mais en fait ça c'est que des petites images dans un sens de Jésus qui était la grâce incarnée et qui a trouvé grâce aux yeux des hommes, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu en fait. En donnant sa vie, il a trouvé grâce pour nous. On pourrait faire en fait tout un tas de gens comme ça dans la Bible. Je n'avais pas pensé à Moïse, donc c'est un bon exemple. Mais il y en a d'autres. David, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Les apôtres ont trouvé grâce aux yeux du peuple. Étienne aussi. Il y a les versets qui suivent si vous voulez après, hein, mais moi je pense qu'on a été assez long comme ça. J'ai été assez long, vous êtes sages. Et nous, du coup, est-ce qu'on fait partie de tous ces exemples-là? Ou est-ce qu'on... Un peu limite, quoi. Mon Michael, faut pas aller trop le chatouiller, il y a un peu... Mais qu'est-ce que les gens ils disent de nous? Ne me dites pas tout de suite, pas maintenant, pas au micro. Je rigole, hein, mais j'espère qu'il y aura un témoignage. Michael, ça va. Au moins, ça va, s'il vous plaît. Et aux yeux du monde, quand je suis au travail, qu'est-ce qu'on pense de moi? Michael, quelle grâce. Je pense qu'il y a encore du boulot, mais l'idée, c'est ça. Et je pense qu'il y a encore du boulot pour chacun d'entre nous, mais que l'idée, c'est ça. C'est qu'on trouve grâce aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Et que nos demandes, quand on les fait, elles passent en fait auprès du roi parce qu'on trouve grâce à ses yeux. Quand on fait des demandes même aux gens, aux humains autour de nous, hein, elles trouvent grâce juste parce que voilà, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on obtient la faveur des autres. Et là encore, hein, attention, c'est pas histoire de manipuler les gens, de dire bah moi je veux avoir une aura de grâce autour de moi, un halo lumineux et que tout le monde me dise oui et j'obtienne tout ce que je veux. Là on est dans la manipulation, on revient dans Hérodias en fait. Mais voilà. On demande les choses et parce que les gens, il y a quelque chose en nous, il y a un amour, il y a une grâce, les gens ont envie de dire oui. Et ce ne sera pas tout le temps comme ça. Hein. Pensez aux frères et sœurs qui sont persécutés, on ne leur dit pas souvent oui. Mais ils trouvent grâce quand même dans des conditions difficiles, dans des circonstances particulières, ils trouvent grâce aussi. Il y a des fois des geôliers qui font grâce, il y a des fois des gens qui devaient torturer et qui font grâce. Ce n'est pas tout le monde, c'est sûr, mais voilà, il y a une grâce qui est possible. Il y a tellement à dire sur la grâce, elle est partout, dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament. Elle inonde les épîtres, littéralement, on voit que ça dans les épîtres. Mais je voulais juste souligner aujourd'hui ce comportement entre le monde et Hérodias, la manipulation, la ruse, la séduction, voilà, et le comportement d'Esther, qui est incroyable, et tout ce qui entoure ça. Hein. J'ai dit le fait qu'elle ait attendu un deuxième banquet, le fait qu'ils aient prié et jeûné, et que Dieu, il ait tout organisé pour que ça marche. Et voilà, dans nos relations avec Dieu, avec les autres, qu'on puisse réfléchir à ça en fait, à nos relations. Dire voilà, qu'est-ce qui transparaît de ma vie? Est-ce que c'est bien Dieu et sa grâce? Est-ce que c'est Jésus qu'on voit au travers de moi? Ou est-ce qu'il y a encore du boulot? Alors je pense qu'il n'y a personne de parfait ici, donc on a encore tous du boulot. Mais le chemin il est là, il faut marcher en fait. Il ne faut pas juste regarder et dire, ouais ça a l'air long. Mais non! Si c'est long, il faut y aller, il ne faut pas traîner, il ne faut pas attendre et se dire, bon, le Seigneur, il me transformera. Hein, après, on est un peu évolutionniste, quoi. On dit avec le temps, je vais aller mieux, je vais devenir meilleur, et pas du tout. En vieillissant, il paraît qu'on ne s'améliore pas. Donc, il faut que le Seigneur, il travaille vite dans ma vie, avant qu'il soit trop tard. Je ne regarde personne, j'essaie de regarder personne. Je pensais à moi, d'abord. Alors, ça, c'était les versets pour prouver ce que je disais, mais vous me faites confiance, donc... Hébreux 4, 16. Tu dis? Parfait, merci Daniel. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces exemples, des fois ces connexions qui se font alors qu'on n'avait jamais vu ça avant. Seigneur, merci pour ces exemples que tu donnes, des exemples à ne pas suivre. Seigneur, des gens qui ont été mauvais et des gens qui ont été bons, Seigneur, mais pas bons par eux-mêmes, Seigneur. Bons parce que tu les as transformés, parce que tu étais en eux, Seigneur, même dans l'Ancien Testament. Seigneur, tu as transformé des vies. Et Seigneur, nous voulons être comme Esther, comme Joseph, comme David, comme les apôtres, comme plein d'autres, Seigneur. Nous voulons être plein de grâce, plein de douceur. Et Seigneur, je veux reconnaître que ma vie ne transparaît pas de tout ça, tout le temps, Seigneur, et je te demande pardon, Seigneur. Je te prie que tu continues ton œuvre dans mon cœur et que tu le fasses pour mes frères et sœurs aussi, Seigneur, que nous puissions être pleins de grâce, te refléter toi dans nos vies Et que, Seigneur, que ce comportement, non seulement nous permette d'obtenir des choses, Seigneur, auprès de toi, auprès des autres, mais surtout, Seigneur, amène des gens au salut par un témoignage, Seigneur. On te prie que tu nous rendes fondamentalement différents des autres, Seigneur, que tu nous changes et que nous puissions marcher sur ce chemin, Seigneur. Amen.